Et sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h et vous êtes sur Radio Canu pour l'émission du Théâtre de la Gamelle. Votre émission de théâtre radiophonique tous les vendredis en direct sur Radio Canu de 13h à 14h. Et aujourd'hui avec nous en studio, nous avons Eva Natalia Grony. Salut.
Salut.
Nous avons Anne-Sophie Ortiz-Ballon.
Bonjour à tous.
Salut, salut. Et nous avons ma pomme à la technique, Pauline Thiraud. On a un immense plaisir. Aujourd'hui, nous vous offrons, chers auditeurs, chères auditrices, une nouvelle saga théâtrale écrite par Eva Natalia Grenier. Il s'agit d'une autofiction inspirée, avec une inspiration lointaine de faits réels, qui est un prétexte à traiter du thème de l'intergénérationnel. Et cette saga s'intitule « Elles y croient qu'elles peuvent voler ». Est-ce que tu veux nous dire deux, trois petits mots en plus, Eva, avant qu'on commence ?
C'est une saga théâtrale qui va se lire sur Radio Canu au Théâtre de la Gamelle. Là, vous avez le premier épisode qui s'appelle « La base de lancement ». Qui va être un épisode assez narratif où on va un peu poser les personnages pour que vous puissiez bien les découvrir et que plus tard ils puissent s'exprimer de plus en plus au fil des épisodes.
Et donc on vous donnera bien évidemment la date de la suite de cette saga en fin d'émission. En attendant, ouvrez grand vos oreilles et c'est parti pour « Elles y croient qu'elles peuvent voler ». Et la trace de ce que tu étais, qui est vive et pleine d'une ambiance ambiguë. L'ambiance des fins de fête qui sonne comme une calamité, comme le début d'une période sombre qui ne fait appel qu'à des gestes de survie. L'estomac et tous les sens aux abois qui tâtonnent en comptant sur les réflexes, qui cherchent à broyer les habitudes et s'extasient devant la dextérité du cerveau. Quand tu t'auto-congratules du bien avoir rangé tes clés dans la petite poche de ton sac. Parce que vraiment, t'aurais pas eu l'énergie de fouiller. T'aurais dû te mettre à genoux sur le bitume et faire danser tes doigts dans des chewing-gums qui n'iront jamais dans ta bouche, des tickets de métro que tu sais plus s'ils sont compostés et toute ta panoplie d'indispensables pour ta survie nocturne. Quand tu t'aimes, oui, vraiment, c'est de l'amour parce que tu as pris soin de toi. De pas te laisser à la dérive d'une scène macabre sur le macadam de ta porte d'entrée. C'est dans cette trace-là que les décisions se forment, qu'elles apparaissent au creux de ton cerveau et déambulent le long de tes neurones, que tu commences à cogiter et à aller vers un changement. Cette trace-là, celle de tout ton être fatigué qui tente lamentablement d'avoir une contenance après la dépravation. On dit la dépravation parce que quand tu as trop de plaisir, c'est dépravant. C'est l'épave qui bave et déroute de tout, qui va trop loin. Genre, il faut des limites, quoi. Il y a des limites à tout. Sinon, tu t'en sors pas, apparemment. Donc, c'est des moments où tu sors de beaucoup de plaisir et de pas mal de laisser aller. C'est de ces moments-là qu'on parle. Parce qu'il faut que tu te l'autorises, sinon tu peux pas tenir. Tu l'as beaucoup expérimenté, et comme maintenant tu sais que la prise de décision s'inscrit dans ces moments entre deux états, tu les évites. Parce que tu veux pas que ça change. En vrai, tu veux pas. Tu sais pas comment faire si ça change. T'es devenue une cocotte minute qui garde les vapeurs et fait mariner les saveurs. Et pas que pour la rime. Mais parce que tu sais que les actes que tu mets en place entre deux mondes, à l'aube du lâcher prise et du lever du soleil, sont essentiels. Et tu es fatiguée d'accepter le changement perpétuel, de ne pas savoir. Putain, en vrai, tu veux savoir et tenter de maîtriser.
Elisa venait d'arriver. Elle avait fait une longue route, une très longue route. Elle avait un petit point entre les deux yeux et elle avait bu trop de café en conduisant. Ses veines faisaient des petits sauts impromptus et le rythme de son cœur n'était pas du tout en adéquation avec son état de fatigue. La poésie d'un entre-deux-mondes, ça lui parlait pas trop, là. Là, elle était au moment où elle savait plus ce qu'elle faisait là. Elle écoutait sa cousine en plissant un peu les sourcils et en emmenant sa bouche vers l'avant. Et sans le vouloir, ça lui faisait une tête de constipée. Elle ne se sentait pas vraiment bien et ça se voyait. Sa cousine lui avait envoyé un message Facebook très tôt, ce matin, en lui demandant de venir. Qu'elle était la seule à qui elle pouvait parler. Elisa devait travailler, mais ensuite elle avait 3 jours devant elle, ce qui était rare, vraiment très rare. Elle avait prévu de regarder la saison 2 de Dirk Gently et de ne pas sortir de chez elle, d'enfin prendre du temps rien que pour elle, elle toute seule. Mais le hasard fait les choses parfois. Et il y avait cette force qui lui disait d'utiliser ces 3 jours pour aller voir sa cousine en Corrèze. Ouais, c'était vraiment une force. Un mouvement dans son esprit qui lui avait altéré les pensées et elle ne voyait pas d'autre option que d'y aller. Il paraît que c'est beau la Corrèze. Et c'est réellement beau la Corrèze. Elle avait pu le constater ces dernières heures entre les sapins. Seule au monde, sur une route où les murmures n'ont pas de place. Où tout est grand et où ton cœur s'ouvre d'un coup. À chaque tronc coupé, un fantôme venait la hanter. Elle ne voulait pas y penser en conduisant. Alors elle buvait sans cesse ce café qui demeurait incroyablement chaud dans le thermos Carrefour qu'elle avait enfin l'occasion d'utiliser. Elle avait opté pour le thermos d'un litre noir, un peu design, qui peut passer pour une cafetière. Elle avait sacrifié l'esthétique à la quantité. Elle avait passé une bonne demi-heure seule face au rayon à se battre contre elle-même. Le thermos noir ou le gros thermos bleu marine d'une remontrance des années 80. Elle n'avait pas choisi celui qui pouvait contenir 3/4 de plus de liquide en prenant la même place dans le sac. Non, elle n'avait pas envie de choisir celui qui sentait le passé. Celui des pique-niques en Ardèche ou à Pau Lyonnais. Elle avait adoré ses pique-niques. C'était son enfance et c'était précieux. Elle avait eu la chance d'avoir de la pure joie en elle autour de ses thermos. Eux, qui étaient assez grands pour les adultes, qui passaient des heures assis avec leur joint et leur café, en les laissant, eux, les enfants, sculpter des dessins sur les rebâtons. Ou faire des spectacles, qui étaient ensuite monnayés pour faire des échanges. Les échanges, c'était un exercice qui consistait à divertir les parents pour qu'ils acceptent que les garçons aillent tous dormir ensemble chez un des parents et les filles chez un autre couple. Un exercice qui ne faillait jamais et qui n'était jamais refusé sous faute de crises de larmes et de mots vigoureux. Des mots qui oubliaient la promenade, le pique-nique et la pause café. Les mots ingrats de l'enfance. Où seul l'instant présent prévaut sur le reste. Elle ne voulait plus de l'ingratitude et elle avait envie que les gens la complimentent sur son beau thermos. De toute manière, aujourd'hui, les gens n'en ont plus des thermos à partager. Tout le monde a sa tasse hermétique du Starbucks ou son petit thermos de 50 centilitres pour tenir dans le métro. Mais tout le monde a oublié celui d'un litre, celui où tu partages à la fin du repas. Elle voulait le tester durant son voyage de 6 heures, et si le thermos avait fait ses preuves, elle le sortirait pour les sorties en journée avec sa cousine au bord des lacs. Lors de leur échange Facebook matinal, sa cousine mentionna
« Et demain, on ira au lac avec mes amis ?»
Elle avait tout de suite pensé à son thermos et qu'elle ferait mouche avec lui. Elle en était certaine. À chaque gorgée, elle se félicitait de la température de la boisson et en même temps de l'immunisation que la boisson caféinée procurait contre les pensées nostalgiques qui la prenaient à la vue de certains conifères défilants.
Oui, c'est ces moments-là, tu vois. Eh bien, hier, je rentrais chez moi dans cet état. J'avais la main droite qui venait de toucher la poche intérieure de mon sac et je venais de toucher les clés. Je distinguais la porte de ma maison à 50 mètres. Ma maison, elle est au bout de la rue. T'as vu, on la repère bien. Eh ben, c'est pas quand j'ai le soulagement de me dire que je suis presque arrivée et que, tu sais, j'ai les boyaux qui commencent à se dilater et à ouvrir mon côlon. Tu sais, quand ton corps, il sent qu'il va pouvoir se lâcher, digérer et larguer toute la pourriture que t'as accumulée dans la journée, que tu vas trouver dans ton côlon, les fesses à l'air sur la cuvette. Que du coup, quand tu marches, tu commences à serrer les fesses parce que quand que t'as pris des décisions, eh ben, elles veulent sortir vite fait, bien fait. Plus tu te rapproches de chez toi, plus tu dois serrer les cuisses. Là, j'en étais au tout début du phénomène, tu vois. Je venais de m'extasier sur mes clés. Oh, je venais tout juste de sentir le premier spasme qui dit « Yes, on arrive bientôt !» Eh ben, c'est pas à ce moment-là, il y a un gars qui m'interpelle. De derrière, j'entends une voix. Alors, je sais pas combien de temps j'ai mis à me retourner, mais dans ma tête, ça a mis des lustres. Des lustres de plus vieux que l'époque où les lustres ils ont été créés. Bah, je pourrais pas dire en quelle année les lustres ils ont été créés, hein, mais c'était il y a longtemps. Temps des rois, non. Le temps où il fallait des bougies et les lustres, ça les faisait briller jolis, non?
Elisa s'était lancée là-dedans, venir voir sa cousine Megan, en se rappelant que lorsqu'elles étaient petites, elles faisaient tout ensemble. Elles étaient des siamoises. Leur corps ne faisait qu'un, et ils se déplaçaient toujours en un mouvement fluide et sans questionnement. Aucun questionnement, juste de l'instinct et du « je te connais par cœur ». Elles n'avaient pas le même âge. Megan avait 4 ans de plus qu'Elisa. Et lorsque Megan est devenue ado, leurs corps se sont démarqués et elles ne pouvaient plus avancer ensemble. Ça ne fonctionnait plus. Ça s'est fait comme ça, insidieusement, sans en parler. Le corps de Megan pouvait prétendre à des choses que celui qu'Elisa ne pouvait même pas encore imaginer. Elles continuaient à se voir. Leur papa était frère, ils habitaient dans la même barre d'immeuble. Mais Megan s'arrêtait de moins en moins souvent au 3e étage. Et elle allait directement à la plaine. La plaine, là où les joggings à boutons étaient rois et où le micro d'argent résonnait pour les premières fois dans les enceintes des lecteurs CD. Là où l'odeur de la fin des pique-niques était l'odeur de l'interdit et où Megan était reine, car elle connaissait la cachette de son père. Son père qui se doutait d'où provenaient les trous dans ses provisions, mais qui préférait savoir sa fille en bas de l'immeuble, avec sa beuh à lui, plutôt que de l'autre côté du parc, avec des trucs chimiques. Elisa n'attendait plus sa cousine pour regarder Art le cœur à vif. Non. Au début, elle sortait un pain au lait pour Elisa. Elle cassait une barre de chocolat. Puis, n'entendant plus la porte s'ouvrir à 16h45, elle s'habitua à manger la part de Megan et avait les faveurs de Drazik pour elle toute seule. À la fin des épisodes, elle allait toujours à la fenêtre. Mais là, ce n'était pas pour chercher leur frère qui s'était caché dans le parc pour manigancer et on ne sait quel stratagème tout pourritos. Là, elle était à la fenêtre pour regarder Megan. Megan qui faisait des yeux de biche à Karim avec Jonathan et Victoire. Karim avait toujours été dans la classe de Megan et c'était son bras droit dans la cour des grands. Elisa avait le droit de les rejoindre quand elle boudait ses copines, à force de devoir jouer la rousse dans les filles d'à côté. Elle n'avait jamais le droit de jouer la blonde, elle jouait toujours la vieille rousse, celle qui était maman et qui n'avait jamais de mec. Quand elle en avait marre de jouer à la maman célibataire, elle rejoignait Karim et Megan et s'évertuait à s'émerveiller devant leur pog. Elisa n'avait jamais été très douée dans ses mains, donc les pog étaient pour elle la pire chose que les années 90 avaient inventée. Après les billes qu'il fallait guider du bout du doigt, les pog venaient encore écorcher ses phalanges et la terrorisaient. Lorsque son tour venait, elle avait aussi peur de perdre les bouts de carton que Megan lui avait prêtés que de se fondre en une grosse flaque de maladresse en écorchant les précieux ronds aux dessins plus moches les uns que les autres. Elle détestait les kinis, les morceaux de plastique qui permettaient de retourner les pogs. Elle n'avait pas du tout de tendresse pour ces espèces de monstres plats, aux traits épais et aux couleurs criardes. Comme elle était petite, elle avait la permission induite de se planter, elle le savait. Megan était agile et avait en tout 3 tubes pleins de pogs. Karim y était souvent pour quelque chose, un sursaut à côté d'un joueur, un pari au bon moment. Quand il sortait de l'école, à 16h30, Megan et Elisa redevenaient les siamoises qu'elles avaient toujours été. Il n'y avait plus de cours, des grands, et Karim n'existait que le temps de l'école. Mais elles ne sortaient plus de l'école ensemble. Megan était au collège. Elle était près du scooter de Jonathan, et les yeux de Karim n'étaient plus les yeux protecteurs du bras droit qu'il avait toujours été. Son bras était droit, certes, toujours à chercher une des épaules ou un bout de hanche de Megan. Quand Jonathan et Victoire se décidaient à aller vers la cabane que leur père avait construite quand eux-mêmes avaient eu besoin de s'isoler de ceux qui ne sont pas dans l'entre-deux âges, les gestes de Karim devenaient de plus en plus langoureux et beaucoup moins secs. Et Elisa regardait de sa fenêtre les gestes qu'elle ne connaîtra pas avant un long moment.
C'était une voix que je connaissais pas, mais il connaissait mon nom. Non, mais on est en plein milieu de la Corrèze et y a un mec que je connais pas qui crie mon nom, qui m'appelle. Le temps que je reprenne mes esprits, que je serre les fesses, que je tente d'effacer le mascara de fin de soirée, de la paume de ma main, que je me dise n'aie pas peur. S'il connaît ton prénom, c'est pas un méchant. Bref, le temps que je me dise tout ça, je me retourne. Je titube un peu, j'avoue, avant que mon pied droit rejoigne mon pied gauche. Je prends une inspiration pour me concentrer et je lève la tête.
Elisa avait pris la voiture à 18h. Elle devait partir plus tôt, mais elle a eu des urgences au travail, car il y a toujours des urgences au travail, quelque chose de plus important que le reste. Et là, à 2h du matin, Megan avait encore une histoire de garçon à lui raconter. Elle ne s'était pas vue depuis presque 10 ans. Megan faisait les saisons pendant les vacances et Noël, et Elisa passait sa vie à travailler. C'était devenue une vraie Parisienne, une de celles qui n'a plus les priorités au même endroit, de celles qui courent toujours, d'un bureau à un concert, d'un concert à un apéro, d'un apéro à une performance, d'une performance à un brunch, d'une réunion à un meeting. Elisa ne pensait plus à sa cousine et ne likait parfois même plus sur Facebook ses publications. Elle ne vivait plus dans la même ville depuis qu'Elisa avait 12 ans. Megan en avait alors 16 et le fossé qui s'était creusé depuis déjà quelques années était devenu si profond que plusieurs espèces de poissons avaient pu y prendre vie. Toutes sortes de poissons, de partout, tout le temps. Des eaux usées et pas toujours drôles. Megan et Karim, ce n'étaient que des tests. Des ados qui essayent et cherchent ensemble. Ils étaient plutôt doués pour ça. Mais Megan n'en parlait pas à Elisa. Les confidentes tournaient autant que les amants, à force de tromperies et autres challenges que les hormones avaient proposés à Megan. Ses parents allaient divorcer. Elle et son frère étaient le cadet de leurs soucis. Ils étaient dans les méandres des quarantenaires enfants de baby-boomers, dans des problématiques où leur enfant n'était pas encore roi et avait toutes les clés pour s'épanouir sans eux et surtout loin d'eux. Les parents de Megan ont emménagé dans la barre d'immeuble quand elle avait 4 ans, au moment où Elisa est née, non pas pour rassembler la famille, mais à cause d'un accident. Lui, il était bûcheron, là-bas en Corrèze, et un mauvais mouvement lui avait bloqué la jambe, handicapé à jamais. Un cotorep. Un papa cotorep qui avait déjà ses fêlures et qui avait déjà le coude fort sur le biberon maltais, houblonné, vinifié, alambiqué. Un papa poète qui aimait tout plus fort que tout. Un papa blessé trop beau pour la réalité et qui, à force de la diluer, l'a perdu à jamais. Alors c'était pratique pour Megan. Elle y allait. Et elle aimait tout très fort elle aussi, trop fort elle aussi. Sa mère a fini par déménager. Elle ne l'a pas suivie. Elle l'a laissé avec son petit frère et du haut de ses 18 ans s'en est allée faire de l'humanitaire. Elle était douée pour organiser. C'est elle qui avait mis en place toutes les manifs et les blocages du lycée et elle avait l'âge légal pour partir et travailler. Elle était partie avec une soif de vivre sans se retourner et sans sonner au 3e étage. Elisa n'était plus qu'une silhouette dans l'ascenseur ou au repas du dimanche. Un cadeau à faire à Noël et une chanson à un anniversaire. une oreille de plus à qui raconter les garçons quand les autres étaient usés. Ça s'était fait comme ça, comme quand on grandit. Elisa a vu son corps à elle grandir sans pouvoir en parler à sa cousine. Les choses qu'on ne dit pas à sa maman, celles qu'on partage avec les copines, et heureusement, Elisa en avait beaucoup des copines, au collège mais aussi à la danse. Pour aller à la danse, à la MJC, il faut passer devant le scooter de Jonathan, qui est toujours là. Le scooter, Jonathan, Victoire, Karim et les autres. Ceux de passage, ceux qui comptent moins pour certains, mais sont le centre pour d'autres. Ils sont toujours là. Et toujours des « Bonjour ?» Des « Hé, la petite, ça pousse, dis donc, hein ?» Oh, arrête, tu l'embêtes. Ouais, mais bon, faut bien lui dire, ça fait plaisir. Des « Arrête, on est timide à cet âge-là. » Des « De toute façon, s'il y en a un qui te touche, hein, tu m'appelles, hein, tu sais ça. Hein. » Des « Toi, t'es pas comme ta cousine, hein. Toi, t'es une fille bien. » Et beaucoup de silence en face. Beaucoup. Karim était un beau garçon. Mégane et lui avaient commencé à faire une compétition de conquête et bien entendu, ça ne s'est pas bien fini. Un garçon ou une fille plus jaloux que les autres et les liens se sont là aussi délités, par fierté là, par rancune aussi, par blessure, pas par ordre des choses. Mégane était partie et c'était un soulagement pour Elisa, une ombre qui devenait de moins en moins présente et une possibilité de devenir soi-même. Elle allait à la danse alors que son corps prenait ses marques et que son âge devenait celui où la maturité commence à ne plus avoir de frontières. Karim a trouvé du travail. Jonathan et Victoire ont eu un bébé. Et ceux qui comptaient moins sont devenus un peu plus importants. Sur le modèle de Karim, il protégeait Elisa, l'intouchable. La petite intouchable, petite qui devenait grande et qui avait l'âge de ceux qui remplaçaient les amis de sa cousine autour du scooter. Mais celle qui ne s'arrêtait pas, qui ne faisait que passer. La fille qui passe. Puis il y a eu Samy, le cousin de Karim. Il était arrivé dans la barre l'année où Mégane était partie à la découverte du monde. Karim a toujours voulu secrètement, mais pas si discrètement que ça, mettre Samy et Elisa en couple. Mais il connaissait les méandres de la puberté et forçait le destin avec parcimonie. Aucune de ces deux marionnettes ne se rendait compte de ses manœuvres. Et ils s'étaient habitués l'un à l'autre avec une mutuelle tendresse et une attirance qu'ils n'osaient pas encore s'avouer. Elisa avait 16 ans. Les garçons, c'était dans la tête, mais jamais dans le réciproque. Et elle commençait à en avoir marre de ne pas avoir d'histoire à raconter. Mégane ne rentrait pas dans la barre après ses voyages. Elle allait voir sa mère, mais plus son père.
Je lève la tête et là, c'est comme si la lumière, elle jaillissait. Un truc super intense. Un de ces moments où tu te dis « on y est ». Là, ce moment-là, c'est un moment que je vais raconter jusqu'au bout de ma vie. C'est un moment important, un truc fondateur. Tu sais, comme si la lumière du soleil, comme si les étoiles qui sont de l'autre côté de la Terre pour le moment, s'étaient concertées. Comme si toutes les planètes, toute leur énergie s'étaient rassemblées pour créer ce moment.
Il est mort. Il y a eu un enterrement et Mégane est venue pour son père. Elisa était restée, elle. Elle était la seule femme avec sa mère à être restée fidèle à son oncle. Et elle avait pour la première fois de sa vie de la rancune envers Mégane en la voyant prendre le siège de devant. Le premier rang. Samy lui tenait la main et elle se souvient lui avoir broyé pas très délicatement les os. Lui n'avait pas émis de son de douleur, mais avait posé son autre main au-dessus de cette mélasse de main avec une douceur qui remit le cœur d'Elisa à sa place. Karim n'était pas là. Il y avait des rumeurs. On ne savait pas où il était. Jonathan, Victoire et leur tribu étaient là. Mégane leur avait souri et les avait pris dans ses bras en arrivant. Les premiers morts, ceux qui rassemblent ailleurs qu'au mariage. Ce qui choque et te font voir tous les gens que tu aimes tristes en même temps, au même moment, au même endroit. Mégane n'avait pas fait de distinction entre tous. La mort de son père, revoir tout le monde. Elle était sous médicaments et personne ne pouvait l'atteindre. Tout le monde savait qu'elle vivait pas loin de sa mère en Corrèze et qu'elle changeait de travail au fil des saisons. Il y a quelques années, elle avait annoncé des fiançailles avec un médecin canadien qu'elle avait rencontré lors d'une mission humanitaire. fiançailles qui se sont finies sous coup de clichés de pervers narcissiques et de jeunes bobos dépressives. Elle ne voulait pas qu'on lui parle de tout ça. Elle ne voulait voir personne, mais elle voulait être là pour son père. Encouragée par Samy, Elisa était allée voir sa cousine pour la prendre longuement dans ses bras. Mais rien. Rien ne s'était passé entre elles lors de cette étreinte. Et lorsqu'elle s'en retira, Elisa, d'un regard gêné, plongea ses yeux dans ceux de sa cousine qui fut seulement capable de lui dire
« C'est qui le mec là-bas ? Ce qui ressemble à Karim ?»
Elisa lui répondit que
« C'est Samy, c'est son cousin. Il est arrivé l'année où t'es partie. On est ensemble. C'est mon amoureux. »
Il est célibataire ?
Cette question fit relever la colonne vertébrale d'Elisa, et du haut de ses 20 ans, elle rejoigna celui qui était devenu son compagnon. Celui avec qui il parlait de fonder une famille, et lui annonça qu'elle partait. Elle lui dit qu'elle allait accepter le stage de Paris et pas celui à Villeurbanne. Le temps fit ce qu'il faut pour que leur couple se délite à coup de MSN Messenger et de discussions à distance.
Vous êtes toujours aux têtes de la gamelle et vous écoutez, elles y croient qu'elles peuvent voler. Les étoiles qui se ressemblent autour de toi et qui tournoient, parce que t'as un peu trop bu, parce que t'es toute seule dans la nuit, que tu te lèves la tête vers le ciel et que tu titubes un peu, alors ça bouge et tu restes le centre autour duquel ça tourne. Les étoiles, elles tournent autour de toi. T'es le centre du monde. En vrai, t'es toujours le centre de ton monde. C'est une question de perspective, pas de nombrilisme. c'est que tes yeux, ils s'ouvrent sur le monde extérieur, donc tu vois tout de ton point de vue. Au sens littéral. Tu vois les choses autour de toi, t'es au centre de tes sens et de ce que tu perçois. Si tu regardes quelque chose et que tu le pointes, bah tu verras ton bras à toi, dans ton champ de vision, le bout de ton doigt qui pointe. Forcément, il y a toujours quelque chose de toi dans ton point de vue. Toujours. Tu baisses les yeux, il y a tes seins, tu te retournes, il y a un bout de ton épaule. Bon, alors je sais qu'on dit que je pense qu'à moi, tout le temps. Je sais qu'on dit ça de moi, hein, je devine. En vrai, quand le sujet vient aux lèvres, je fais tout pour qu'il ne se développe pas. C'est passionnant d'être soi. Putain, Elisa, être soi, exister, c'est fou quand même. C'est normal de s'en extasier et de partager ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu vis. Et c'est déjà compliqué d'être soi. D'être soi-même, putain. De respirer. Comment c'est une chance. Une putain de chance d'être là. Que tu choisisses ou pas le lieu où tu es là, au milieu des étoiles, et tu es le centre de ton monde. J'ai vu, je sais, tu choisis rarement, et il y a des gens qui aimeraient tellement être ailleurs que là où ils sont. Je sais que quand je fais la poète sur la chance de la vie, je suis pourrie gâtée. Je suis pourrie gâtée d'être blonde, d'avoir les yeux bleus. Je sais. Je me concentre sur mes sensations parce que se projeter dans celles des autres, tu peux pas. En vrai, ceux qui disent ça, c'est des hypocrites. Je sais. Ouais, tu peux pas savoir. Tu peux pas vivre de culpabilité tout le temps. Tu peux pas. Et la chance d'être qui tu es, là où tu es, il faut que t'en profites pour ceux qui n'ont pas la chance. Et donner, il faut. Je donne tout de moi, tu sais que je le fais. Je suis pas comme toi, j'arrive pas à écouter les autres tout le temps et à faire en fonction, à respecter, à réfléchir. Je suis dans l'action, tout le temps sans repos. Je suis moi, entièrement, et je teste tout ce qui se passe en moi. Parce qu'on a la chance d'exister et d'avoir les moyens d'exister. Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens d'exister, d'être soi complètement. Je sais, il y a des blocages. Matériel, humain, dans ta tête, dans ton corps, il y a des blocages tout le temps. Je sais que c'est une chance d'avoir les moyens. On dit souvent se donner les moyens. Mais putain, c'est pas toujours toi qui te les donne les moyens. Parce que tu dois faire avec ce que tu es. Et c'est compliqué. Quand les gens parlent, ça a l'air simple. Alors qu'ils savent que c'est compliqué d'être un être vivant. Un humain, c'est compliqué. Et on est tous pareils avec la même matière de l'après-Big Bang et avec la même complexité. C'est jamais simple, on est tous ok là-dessus. Alors pourquoi on simplifie tout le temps ? Putain, c'est pas simple. Je sais, ça rassure de faire des schémas, de faire des ordres établis, des rites et de se rassembler autour de ce qu'on trouve en commun. Mais c'est dangereux ça. C'est comme ça qu'on t'attrape. Qu'on te fait de la pub qui te touche et qui te donne envie d'acheter un truc, que tu crois qu'il n'y a que toi que ça fait envie, cette publicité, où tu vois une petite meuf avec un grand sourire, danser en cuisinant des pâtes, qui ont l'air trop bonnes dans leur sauce délicieuse, délicieuse. Et tu te dis, oh oui, j'ai trop envie de manger des pâtes en mettant de la musique italienne, et d'acheter de la mozzarella et un chianti et de danser dans ma cuisine. Ah ouais, j'ai envie de faire ça là d'un coup. Et t'oublies que c'est dans ton petit écran, en 30 secondes, qu'on t'a convaincu que c'était ça dont t'avais envie. Et quand en fait on est au moins, et je suis gentille, hein, au moins 5000 à s'être cuisiné des pâtes ce soir-là. Bon. Les rituels. On te dresse tes saisons, on te rassure. Parce que c'est compliqué d'être un être humain, putain ! On te laisse croire que c'est ton libre arbitre qui choisit. Enfin, chez l'élève qui s'entrouvre et qui allait parler sur la politique. Allez viens, je la mets dans la même casserole, la politique, avec les pâtes et je fais tout cuire. Même, je les fais cramer. Pardon, je suis un peu fâchée. C'est pas contre toi. C'est moi toute seule, je me fâche. Hein. Je me masturbe la pensée. Toi, t'es calme. J'aime bien ça. T'as pris ça de mamie. Je l'aimais tellement fort, et toi, tu lui ressembles beaucoup.
C'est sorti de nulle part, comme ça. Une flèche qui atteint bien profond le cœur et qu'on n'a pas vu venir. Comme ça, d'un coup, mamie. Elisa attendait que Mégane continue de parler parce qu'elle, elle pouvait pas prendre la suite de la conversation. Mégane s'est levée, elle est allée en direction de la bouilloire pour la remplir à nouveau d'eau. Elle s'est dirigée vers la théière et n'a pas jeté le sachet. On jette pas les sachets chez eux, ça se réutilise les sachets de tisane. Jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de goût. Leur mamie avait des habitudes de guerre et les gestes de 39-45 qui se poursuivaient jusqu'à la cuisine presque neuve de Meghan en 2018. Une déclaration d'amour hirsute sortie de nulle part. Elisa était fatiguée et les larmes qu'elle devinait sur le visage de sa cousine encourageaient les flots qu'elle retenait en elle. Meghan venait de conspuer les habitudes, mais pour Elisa, c'est ce qui nous fait tenir. Et ce qui fait que les gens arrivent à communiquer et à ne pas vivre chacun dans son coin. Les rituels, c'est la base de toute civilisation. Ça fait partie du bien-être d'un être humain. C'est pas une création humaine, c'est une induction, une conséquence que quand t'es humain, t'es un être social. Que tu as envie d'être avec les autres. En regardant sa cousine verser l'eau qui était désormais bouillante, Elisa a regardé le petit doigt de la main gauche de sa cousine qui se relevait. Ah, ce geste-là! Il n'est pas qu'à Meghan. Il est à leur grand-mère et à elle aussi. Alors c'est peut-être une habitude, une reproduction, une déformation génétique, mais ce petit doigt-là, celui-là, là, Meghan ne pouvait pas dire qu'il n'appartenait qu'à elle. Et en levant les yeux le long de la paume qui retenait la bouilloire, elle reconnaissait les mains vieillissantes de celle qui autrefois était son double. Elle reconnaissait le début de ses phalanges, qui étaient plus abruptes que les siennes, et ses longs doigts fins. Ceux qui mélangeaient avec les siens les pâtes de gâteau à la fleur d'oranger. Ses doigts qui se posaient délicatement sur ses yeux quand arrivait le moment où, oui, où le cœur saignant, dégoulinant, était soulevé dans Indiana Jones. Elle voyait ses mains et y découvrait des relâchements et des resserrements, des taches et des veines plus visibles aussi. Ce n'étaient plus des mains de petite fille ni d'adolescente. C'étaient des mains de femme. Elle ne parlait plus depuis quelques minutes. Meghan, remarquant que sa cousine regardait ses mains, s'approcha d'elle, prit sa main gauche à elle et écarquilla le majeur d'Elisa pour atteindre le pli entre les doigts. Elle y découvre alors ce qu'elle cherchait, un grain de beauté. Le même que leur grand-mère avait. Elisa et sa grand-mère avaient en commun ce grain de beauté-là, caché au creux de ses doigts. Après le décès de leur grand-mère, les deux petites filles écartaient les doigts d'Elisa et communiquaient avec leur mamie à travers ce grain de beauté. Elle pensait que c'était une sorte de portail vers l'au-delà. Qu'il suffisait de se concentrer très fort dessus, en pensant à leur grand-mère, et que tout ce qu'elle dirait serait communiqué à l'intéressé, quel que soit le lieu où elle soit. D'ailleurs, elle ne voulait pas savoir où elle était. Elle était quelque part et elle pouvait les entendre. Elle ne leur répondait pas, mais elle entendait. Meghan et Elisa avaient toutes les deux les yeux embués. Elles n'osaient pas encore les relever pour se regarder. Ce qui était l'étape suivante du rituel. D'abord, séparer les phalanges, regarder le grain de beauté, puis se regarder. Et quand elles étaient prêtes, sans avoir à se le communiquer, puis une des deux se lançait. Là, Elisa était assise sur une chaise, Meghan s'était appuyée contre la table et le cœur des deux femmes battait très fort ensemble. Elisa dut reprendre son souffle et Meghan respirait par petits à-coups. Un geste d'enfant effectué par deux femmes, ça prend de suite une autre ampleur. Et toutes les deux savaient ce que ça signifiait. Une partie d'elles se trouvait ridicule et une autre y croyait fort. Elles vivaient le même dilemme et étaient toutes les deux étonnées de ne pas se trouver mal à l'aise dans cette promiscuité. Une connivence qu'elles n'avaient pas vécue depuis des années et qu'elles pensaient avoir perdue. Et alors d'un coup, comme ça, comme les gestes qu'on connaît par cœur, leurs yeux sont remontés les uns vers les autres. Et elles se regardèrent, attentivement, avec concentration et attachement, très sérieusement, avec les sourcils détendus. Leur souffle se mit en commun, sans qu'elles le décident, et un sourire énorme prenait place sur leur visage. Un sourire qui donnait lieu à quelques éclats, des yeux qui se plissaient et laissaient deviner quelques rides au-dessus de leurs joues fraîches, des joues pleines de sang, vives et toniques. Elle reconnaissait leur visage et découvrait les vies qui avaient pris part dans quelques creux et qui avaient agrandi et vieilli leurs traits. Elle riait de pouvoir se retrouver. Comme quand tu es soulagé, tu relâches la pression et les tensions s'échappent dans une joie immense. Et d'un coup, leur regard descendit d'un coup, comme si quelqu'un avait poussé leur tête à se baisser et elle se trouvait face au grain de beauté. Elles prirent une respiration commune, dans laquelle le visage de leur grand-mère vint à leur esprit de suite. Et la bouche de Megan prit la parole.
Mamie, pardon. Je suis désolée, je viens de dire que je déteste les rituels, je peux pas. Je peux pas les faire toute seule. Je peux pas prendre d'habitude. J'ai fait venir Elisa. T'as vu ? On est toutes les deux. Elle est belle. Elle a toujours la même tête. Mais c'est une nana maintenant. D'abord, je vais te dire que tu me manques. Et puis après, je vais te dire qu'il est revenu. Il m'a trouvé. Un jaillissement de lumière. Je pensais pas qu'il me retrouverait un jour. Vraiment, j'ai vraiment cru qu'il se ferait une vie sans moi. Que moi, je pouvais pas lui faire du bien. Que moi, je pouvais pas lui transmettre des choses bien. Je me voyais pas avec lui dans la plaine. Dans les jeux, les espaces aérés, les pistes en goudron que toi et tes copines vous aviez construites. Que toi et tes copines vous aviez réclamées à coups de poussette sur le périphérique. Tu te souviens de cette histoire là, Elisa ? Papa me la racontait tout le temps. Mamie, sur le goudron, avec la poussette. Il y avait ton père dedans et mon papa à moi qui tenait la main de mamie. Et il y avait toutes les femmes du quartier qui sont allées sur le périphérique avec les enfants et les poussettes. C'était pour empêcher qu'on construise un immeuble sur la plaine. On leur avait promis un parc et elles voulaient un parc. Pour que leurs enfants, ils aient de l'espace. Pour que leurs enfants, ils soient pas enfermés à l'intérieur des bars interminables. Et moi, j'imaginais mamie, trop la classe avec sa petite coupe, ses robes à fleurs, ses lunettes sur le nez et son rose à lèvres. Je l'imaginais avec les deux petits gars qu'elle avait conçus, sur la route, avec une rage pacifique et un aplomb qui retentit comme un gros tonnerre. Pas de pétition sur le net, mais du porte-à-porte, et les gens sont en face de toi, et il y avait encore un semblant de démocratie, et un semblant de « je vous écoute ». On avait des traditions françaises de respect du citoyen, et on écoutait ses remarques. On gazait pas des mamans avec des enfants sur une route. Non, on faisait pas ça à ton époque, mamie. À l'époque, on était moins drainés sous des flots d'informations et d'abêtisations. Toi, mamie, tu voulais que le cerveau de tes enfants, il s'aère, qu'il joue. Des enfants, ça reste pas dans un putain d'appartement. Ça doit jouer, ça doit se construire, un esprit vif et cohérent. Vous avez eu la plaine pour vous. Vous avez construit des espaces pour vos enfants, avec vos mains, pour eux, pour nous, que tu savais pas qu'on serait, nous, un jour quelque chose, mamie. Tu le savais pas à l'époque. Et tes enfants, mamie, et nous, mamie, la plaine, on y a joué, on y a couru. On s'est mercurochromé les genoux à croire qu'on avait les jambes naturellement roses. On s'y est raconté toutes nos histoires. On y a vécu toutes nos histoires. La plaine, elle a sauvé nos cerveaux. Tu savais pas, mamie, à l'époque. Tu la voyais pas venir, la télévision, à cette époque. La plaine, elle nous appelait. Elle avait la force de nous tirer le nez de devant Beverly Hills. Nos pères y ont construit leur cabane dans la plaine. Celle où il t'échappait. Celle où je me suis échappée. Celle où il a été conçu. Celle où il n'a jamais mis les pieds. Donc je voulais qu'il aille. Notre cabane, notre plaine. Il y avait trop de choses à faire encore, trop de choses à explorer. Je la connaissais par cœur, la plaine, mamie, j'en pouvais plus. Nous, nos batailles, elles devaient se faire ailleurs, il fallait que j'aille ailleurs. Je pouvais pas le garder et finir à jamais dans la plaine, à jamais, mamie. Je me voyais pas pouvoir changer le monde avec lui dans ma vie. Comme si le fait qu'il soit pas là avec moi, ça le retirait de ma vie. Comme si je me mentais à moi-même.
Megan tenait écarté les doigts de sa cousine pendant sa confession. Elisa commençait à avoir une crampe, au mauvais moment, quand la douleur vient et que tu dois tenir. Elle s'imaginait dans une forêt, haute et grande, au milieu des sapins, là où elle s'était arrêtée de faire pipi, par exemple. Là où elle avait levé la tête pour s'aider à se concentrer, pour pas faire exploser sa vessie trop vite, le temps de s'installer. Heureusement, on était en mai et elle n'avait qu'à relever sa jupe et descendre sa culotte. Elle avait levé la tête et vu les épines des arbres s'allonger à l'infini, chacune au bout des branches immenses. Il faisait noir et elle avait mis une lampe torche autour de son front et la lumière se reflétait sur les sapins. Elle n'avait pas eu le temps d'avoir peur. Elle attendait depuis 40 minutes au bout du trottoir pour s'arrêter. Mais la route n'était construite que de virages étroits. Lorsqu'un bout de terre s'était un peu dessiné entre la route et la forêt, elle ne s'était même pas posée de questions. Elle ne s'était pas rappelée qu'elle était seule et que le fait de s'enfoncer seule dans une forêt, dans le noir, en ayant pris le temps de fermer sa voiture, était la base de toute la dramaturgie des films d'horreur du début des années 2000. Année où la fermeture des voitures à distance n'était pas encore abordable. La vue des cimes, pleine d'épines, l'avait tellement impressionnée au premier regard qu'elle avait lâché une goutte de pipi avant d'avoir pu descendre sa culotte. Puis elle avait repris ses esprits et en un concentré de peur, courage, besoin de retenir sa vessie, elle avait vérifié qu'aucun tissu ne se situait sous sa vessie. D'un geste habitué, elle s'équilibrait d'une main et appuyait l'autre sur son genou gauche. La douleur qu'elle ressentait depuis presque 40 minutes allait prendre fin et pour les dernières secondes, elle comptait sur la beauté de la nature pour tromper sa vessie. La douleur d'avoir les doigts écartés si longtemps et les mots que sa cousine prononçait avaient influencé Elisa à chercher du regard un morceau de beauté à l'extérieur. Elle parcourait alors des yeux la cuisine de sa cousine, mais la cuisine de Megan était aseptisée, avec un plan de travail sans charme et des placards brillants marron. Le regard d'Elisa parcourut toute la pièce et tomba sur la télévision allumée. Il y avait deux personnes à l'écran. Ils sont tous les deux extrêmement bronzés et la fille est bien trop maquillée derrière ses belles lunettes de soleil. Le garçon semble maquillé, lui aussi tellement les traits de son visage sont grands. Ils sont dans une voiture décapotable et parcourent une ville aux immeubles aussi aseptisés que la cuisine de Megan. Elle se demandait la tête qu'elle aurait si elle était aussi bronzée et si elle mettait autant de maquillage sur elle. Peut-être qu'un garçon au visage trop grand aurait été à côté d'elle dans la voiture à la place de son thermos. Il serait avec elle chez sa cousine et le couple un peu trop bronzé arrive dans une sorte de hangar et on leur met des combinaisons. La fille a peur et le garçon lui met les mains dans le cou et semble la rassurer. Ils montent dans un avion. La fille semble de plus en plus stressée et ses traits se dilatent de plus en plus. Son maquillage ne fonctionne plus et on devine la petite fille qui est en elle. Le garçon n'emmène pas large, lui non plus. Il fait des allers-retours avec ses mains sur son biceps et de temps en temps, il tapote ses doigts sur l'endroit le plus rebondi de son muscle. Il n'y a pas le son. Le son, c'est sa cousine qui le fait. Elisa aimerait des pubs. Elle aimerait qu'il y ait des pubs à l'écran et aussi dans la bouche de Megan. Qu'elle parle de Choco Pops ou de Frosties, qu'elle parle de Weetabix. Elle veut voir des gens qui font semblant d'être heureux grâce à un plat un peu trop sucré. Mais pas de pause, non. Pas d'effet d'annonce. On ne profite pas du moment. On nous neurone. Ouais, le moment où nos neurones sont en ébullition pour nous gaver de marchandises. Non, au moment où sa cousine prononce les mots cabane, conçue et explorée, le couple un peu trop marqué par le soleil saute de l'avion avec chacun un gros gars mastoc dans le dos et ils tombent. L'air déforme leurs traits déjà bien changés par la chirurgie esthétique et les UV. On ne peut deviner s'ils sont heureux ou angoissés. Un peu des deux certainement, oui. Le peu de vêtements qu'ils ont sur le dos font des plis dans l'air et le ciel est autour d'eux à l'infini. Elisa ferme alors les yeux et quand la voix de sa cousine ne se fit plus entendre, Elisa releva les yeux et fit enfin ce qu'elle n'avait pas pu faire depuis son arrivée. Ce qu'elle n'avait jamais pu faire depuis que la poitrine de sa cousine avait pris forme sous les body fluo que la fin des années 90 avait installé sur le corps de toutes les petites filles. Elle prit la parole.
Après la mort de mamie, j'ai souvent rêvé que je buvais dans une de ses coupes du champagne. J'allais me servir dans son mini-frigo et je faisais péter le bouchon d'une des dizaines de demi-bouteilles qu'elle gardait constamment au frais. J'arrivais à faire péter le bouchon du premier coup et je me servais dans une coupe. Je m'asseyais sur un fauteuil que je connaissais pas et à la place de la télévision, il y avait une cheminée. Quel que soit l'âge où je faisais ce rêve, j'avais une trentaine d'années lorsque je m'asseyais sur ce fauteuil. Je m'asseyais dans son appartement, dans son fauteuil, et je regardais la cheminée. J'étais seule. J'avais jamais remarqué avant que dans mon rêve, j'étais tout le temps seule. Pas de mari, pas de concubin, pas d'enfant, pas de toi, aucun de nos pères, de nos frères, aucune de nos mères, juste moi, moi dans un fauteuil. Ça faisait bizarre d'être seule dans ce salon. Être dans un endroit que tu connais par cœur sans en reconnaître l'ambiance. Il n'y avait pas de photos autour de moi. Alors que chez mamie, il y avait des photos de nous partout. Autour de la cheminée, il y avait bien sa cheminée avec les vases ramenés de ses voyages, ses livres de science-fiction et les cassettes vidéo de Star Wars. Mais pas de photos dans mon rêve, aucune. Je m'asseyais tranquillement dans le fauteuil et j'approchais la coupe de mes lèvres. Je buvais une gorgée. Quand j'étais petite, je devinais l'effet des bulles dans ma bouche et en grandissant, la sensation devenait de plus en plus concrète. J'en buvais une deuxième, parfois une troisième, une quatrième. Je ne savais jamais quand ça allait arriver, mais à un moment, des hommes se mettaient à frapper à la porte. Ils frappaient et criaient « Mademoiselle Soulier, ouvrez ! Ouvrez ! Vous devez descendre sur la plaine, c'est l'heure de l'exécution !» Et moi, je ne voulais pas leur ouvrir, je ne répondais pas. « Mademoiselle Soulier, on sait que vous êtes là, on entend la télévision !» Mais la télévision n'était pas là. À la place, c'était une cheminée, une vraie. Alors je m'approchais de la cheminée et j'essayais d'écouter. Ils criaient de plus en plus fort de l'autre côté de la porte et ils cognaient. Ils disaient qu'ils allaient défoncer la porte. Alors j'approchais ma tête de plus en plus près de la cheminée et en m'appuyant sur la paroi, je déclenchais un mécanisme qui agrandissait la cheminée et j'apercevais des escaliers. J'avais peur. Je sais pas pourquoi, mais je me retournais toujours pour attraper une demi-bouteille de champagne et je gardais ma coupe à la main et je montais les escaliers. Mon pied touchait la première marche et à l'instant où les soldats ouvraient la porte et le mécanisme refermait de suite la cheminée et je me retrouvais de l'autre côté du mur. Je montais sans me retourner et sans réfléchir. J'avais escaladé à peine une vingtaine de marches quand une main m'attrapait le poignet et me tirait contre elle. Je reconnaissais l'odeur poudrée de mamie et elle me faisait des petits bisous secs et bruyants au-dessus de la tête. Elle me relâchait, me regardait et attrapait le champagne en me remerciant. Elle se servait dans ma coupe en me disant que je ne pouvais pas rester, qu'ils allaient trouver la trappe et m'attraper. Ils voulaient que je regarde ce qu'elle n'avait pas voulu regarder, qu'elle savait où partir se cacher elle, mais que moi je ne pouvais pas venir avec elle parce que je n'étais pas morte. On entendait les voix des hommes de l'autre côté du mur. Mamie écrivait quelque chose sur un papier et me le glissait dans la main droite en me disant de l'ouvrir que lorsque je serais au bord de la fenêtre. Et moi, je lui disais que je voulais rester avec elle. Elle me répondait que je n'avais pas à voir ce qu'elle n'avait pas réussi à regarder, que j'allais assez en voir dans ma vie. Elle me disait « Ma chérie, je traversais la place Bellecour. Je rentrais du travail en gardant bien contre moi la sacoche dans laquelle j'avais gardé les lettres que je devais faire passer aux résistants. J'étais tellement concentrée sur ma sacoche que j'avais pas vu ce qui se préparait sur la place. Un soldat allemand m'a attrapée par le bras et m'a emmenée de l'autre côté d'une cordelette qui entourait la place. Il m'a dit « Allez, encore une, viens. Vous devez tous regarder ce qui arrive à ceux qui résistent dans votre pays. Tu n'as pas le droit de te boucher les oreilles ni de te boucher les yeux. Si on voit un seul coude en l'air, on te tirera sur le coude. Viens et reste là. » Je n'ai même pas pensé à me débattre. J'avais trop peur que ma sacoche s'ouvre. Alors je l'ai suivi et lorsqu'il a considéré que j'étais assez encerclée pour ne pas fuir, il m'a fait signe de rester tranquillement là où j'étais. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai levé les yeux et j'ai découvert les poteaux d'exécution et j'ai vu les dizaines d'hommes et femmes qui étaient rangés un par un devant. J'ai vu les soldats face à eux avec des fusils. J'ai tourné la tête et j'ai vu un arbre, un grand arbre bien épais. La place se faisait remplir de plus en plus. Je faisais un demi-pas, puis un autre, tout doucement, comme pour laisser la place aux autres, jusqu'à me retrouver derrière l'arbre. Je me suis retrouvée derrière l'arbre juste au moment où le premier coup a été tiré. Et où le premier cri s'est fait entendre. J'ai tout entendu, mais j'ai rien vu. Les cris des hommes s'approchaient et mamie s'effaçait de plus en plus. En me faisant signe de m'approcher de la fenêtre de la cuisine, de la grande baie vitrée de la cuisine, instinctivement, bah, je montais sur le plan de travail, j'ouvrais la fenêtre, je retrouvais le papier de mamie dans ma main et je lisais. Alors, c'était toujours marqué la même chose. Vol, Elisa, vol. J'entendais les pas des hommes dans les escaliers, je regardais devant moi et je voyais la plaine. Et sans appréhension aucune, je m'allongeais avec un élan et mon corps se mettait à voler au-dessus de la plaine, délicatement et horizontalement. C'était doux, c'était induit, c'était comme flotter dans la mer. Il n'y avait personne dans la plaine, elle était vide, complètement. Pas de scooter, pas d'enfant, pas de ballon, pas de bruit. Je ressentais tout ce qui se passait réellement, comme si je rêvais pas, comme si ma conscience était reliée à un autre niveau de sensation. Je regardais en bas et quand j'arrivais au niveau de la cabane, je voyais un adolescent en sortir, un jeune garçon brun et beau. Il me semblait familier, mais je le connaissais pas. Je le regardais, il levait le bras pour me faire coucou. Et au moment où il faisait son premier aller-retour de coucou, je me réveillais. J'étais dans mon lit, avec les jambes engourdies et le cœur qui palpitait. Le temps que je batte les cils et je revoyais le visage du jeune garçon. Et quand j'étais petite, je me disais que ce serait mon amoureux. Puis ado, je le cherchais partout. À un moment, j'ai cru que c'était Samy, mais c'était pas du tout lui. Et en devenant adulte, je me suis résolue à croire que ce serait mon fils. Et j'ai toujours pas de fils. Et j'ai l'âge d'être assise dans le fauteuil. Et toi et moi, on n'a jamais eu les mêmes rêves en vrai. En vrai, j'ai jamais volé. En vrai, j'ai jamais vu les choses horribles dont mamie parlait. J'en ai entendu parler, elles ont créé des nouveaux réflexes chez nous, des peurs qu'on s'imaginait pas avoir, des envies d'avoir des cheminées magiques à la place des télévisions. De pouvoir se cacher et de croire que les arbres, ça nous sauverait du pire. Des envies d'avoir des enfants pour donner de l'espoir. En vrai, c'est toi qui les as vues, les choses horribles. En vrai, c'est toi qui as volé dans le ciel, qui a pris des avions à foison. C'est toi que le garçon faisait coucou. C'est toi qui as eu un garçon. Ça fait quelques années que je le fais plus ce rêve, que j'ai plus les rêves où t'as les sensations, où t'as un vertige quand tu te réveilles. T'as vu la lumière et ton fils t'a retrouvé. T'as un fils, mais il vient d'où? Pourquoi tu l'as pas gardé? Pourquoi on le connaît pas? Pourquoi on te connaît plus? Pourquoi t'es mystérieuse? Non mais rends-moi ma main. Rends-moi mon histoire et rends-nous notre famille. En vrai, tu voles les instants en gens. En vrai, on est censé se connaître, toi et moi. J'ai mangé tes parts de chocolat et tes petits pains pendant des années en sachant que tu reviendrais plus. Je suis plus allée dans la plaine jusqu'à ce que t'en partes. T'avais pas vu? Mais t'avais pas vu que moi j'étais pas là? Que moi, en fait, j'étais dans la chambre d'amis avec Costa, Nick, Bolton et Drazik, avec Kelly, Brandon et Brenda, avec Will et Carlton, avec Screech et Kubiak. On est toujours entouré de gens qu'on connaît pas. Regarde, t'as la télé allumée alors que je suis là. T'as une des plus belles plaines autour du monde, autour de toi et...
Elisa se leva et alla devant la télévision qui était en mode muet. Elle trouva la télécommande et monta le volume un peu plus fort. Un peu trop fort. Elle s'assit à côté de sa cousine, sur la table en lui prenant la main. Sa cousine sortit de sa poche son téléphone, tapota sur les touches et tendit l'appareil à sa cousine.
C'est lui ?
C'est lui.
Tu le rencontreras demain. On ira au bord du lac avec des copines et il viendra. Et je te raconterai. Je te jure que je te raconterai. Je t'ai pas fait de lit, hein. Tu dors avec moi ce soir comme avant. Et je garderai ta main serrée contre la mienne et on ira voler ensemble au-dessus de la plaine. On ira voler au-dessus de toutes les plaines du monde. Et je te montrerai ce qu'il y a de beau et je te cacherai pas ce qu'il y a de laid. Il n'y aura que des grandes plaines, pas d'arbres pour bloquer la vue. Ça fera peur des fois. Des fois, on cherchera à nouveau les sapins, on cherchera les épines pour cacher la vue. Et parce que c'est beau, et parce que ça protège, et parce que ça met à l'ombre les arbres, les sapins. Je suis pas ici par hasard. Ici, tu lèves la tête et t'as un ciel. Il est pas bleu, il est vert. Je sais que je cache des choses. Mais on va trouver notre base de lancement. On va remettre les choses au clair. C'est de l'espoir, tout ça. Allez, viens, on va se coucher. Demain, c'est un autre jour. Un jour clair et chatoyant. Un jour de chiamoise, un jour de pique-nique. J'ai acheté des merguez et j'ai des pains au lait. T'as amené du chocolat, au riz soufflé et t'as le terbousse pour le café. On est bien équipés. On est bien équipés, nous. d'entendre « Elles y croient qu'elles peuvent voler » d'Eva Natalia Grenier. Première partie d'une saga qui va durer cette année et même vous conduire jusqu'à la rentrée prochaine, car la suite de cette superbe saga, vous pourrez l'entendre le 15 juin, toujours en direct de 13h à 14h, et la suite et fin sera pour la rentrée au mois de octobre. On vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Et on vous dit à la semaine prochaine sur Radio Canu.
Merci.
Salut.